20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. La récente ouverture des fouilles de Pompéi donne lieu à un cortège de découvertes exceptionnelles. Et déjà, fresques rouges, jaunes, vertes, mosaïques ou squelettes enfouis sous les lapilli de l'année 79 font le tour du monde. Ces recherches menées par Massimo Osanna sonnent à elles seules le renouveau de l'archéologie italienne, fortement malmenée depuis des décennies. Aujourd'hui, une grande exposition, non pas sur la fin tragique de la cité, mais ses débuts, est organisée par le Parc de Pompéi, le Musée archéologique de Naples et le Pôle des musées de Campanie. Ce soir, pour plonger dans les origines réelles ou mythiques de la grande cité souterraine, un invité, Stéphane Verger. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, vous êtes l'incontournable spécialiste des circulations et transferts culturels sur les rives septentrionales de la Méditerranée au cours des 7e, 5e siècles avant notre ère. Vous êtes aussi commissaire de cette exposition « Pompéi et les Étrusques ». Stéphane Verger, comme tout un chacun, vous avez vu les très belles découvertes réalisées dans la région 5 par la surintendance de Pompéi. Vous les avez même vues en vrai. Voici 70 ans que nous attendons cela.
Oui, en effet, j'ai eu la chance d'être à Pompéi le jour où Massimo Osanna a découvert la fameuse inscription au carbone qui donne la date d'une semaine avant l'éruption et qui change la date officielle de l'éruption du Vésuve. Mais évidemment, c'est une grande émotion de voir cette fouille en cours parce que on voit à la fois la cité antique, mais on voit aussi les fouilles du XVIIIe siècle avec les galeries des Bourbons qui sont encore visibles véritablement. On voit toutes les étapes de l'éruption parce qu'il y a pour la première fois une stratigraphie qui est très bien connue de cette éruption. Et puis, bien entendu, les mosaïques qui sont des chefs-d'œuvre de l'art antique et aussi des témoins de mythologie et de religion tout à fait originales. Il y a ce que l'on appelle le catastérisme d'Orion, par exemple, qui est une scène très particulière avec ce personnage qui sort d'un scorpion, qui est touché par la torche d'un autre personnage ailé avec un cobra dessous. Donc c'est toute la Méditerranée qui est là, toutes les religions de la Méditerranée qui se retrouvent à Pompéi.
C'est une mosaïque ?
C'est une mosaïque qui a été trouvée dans cette maison de la région 5, une mosaïque assez ancienne sans doute. Et depuis que Massimo Osanna a présenté ici les découvertes, je crois qu'il a de nouvelles interprétations sur l'identité ou sur les fonctions qu'avait le personnage qui avait cette maison, qui était sans doute un érudit initié vraisemblablement.
À quelques cultes orientaux ?
Des cultes orientaux, égyptiens, voilà. Et peut-être aussi, m'a-t-il dit, des questions de géométrie, de topographie. Donc avec peut-être une représentation de gros mâts, cet instrument qui servait à tracer les rues, les cadastres des villes antiques.
Il faudra vraiment qu'on revienne sur ce sujet. C'est aussi l'épaisseur des lapilli, ce que l'on appelle les lapilli, c'est bien sûr les cendres, des mètres et des mètres de cendres très bien stratifiées.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est peut-être un des apports aussi de cette nouvelle fouille. En particulier, il a retrouvé les traces des fouilles et du sol des fouilles qui se sont faites depuis le XVIIIe siècle. Galeries de pillage, avec à l'intérieur aussi des petits signes, par exemple, que laissaient les pilleurs, enfin les fouilleurs à l'époque, pour se repérer dans ces labyrinthes de galeries qui étaient évidemment sous les cendres.
Ces recherches portent sur les derniers instants de la ville, bien sûr, mais ne plongeront pas dans la profondeur du temps, essentiellement pour des raisons patrimoniales et de conservation.
Alors, je crois que c'est très important de dire que toutes les fouilles qui se font actuellement à Pompéi se font non pas seulement pour la recherche, mais pour la conservation. Les fouilles de la région 5 en particulier sont faites pour la préservation de cette zone qui est entre la partie fouillée de la ville et la partie non fouillée. Et c'est pour mettre en sécurité cette limite qu'ont été faites ces fouilles. D'un autre côté, en effet, Massimo Osanna, comme certains de ses prédécesseurs, ont voulu ouvrir le site à des équipes étrangères, à des équipes internationales. Et là, il y a des fouilles très précises des universités italiennes, des universités étrangères. Mon laboratoire même fait des fouilles dans la nécropole de Porta di Nocera et puis aussi dans la villa de Diomède. Donc c'est une très grande effervescence scientifique, mais aussi, je dois dire, pour la gestion du patrimoine culturel, du patrimoine archéologique, c'est sans doute un modèle maintenant et on se demande, je dois dire, même le connaissant depuis longtemps, comment Massimo Osanna a réussi à mener de front toutes ces batailles, batailles scientifiques, batailles du patrimoine, c'est une guerre permanente pour l'archéologie.
En tout cas, les fouilles de Pompéi, c'est un peu le renouveau de l'archéologie italienne qui était quand même très malmenée.
Oui, tout à fait. C'est une nouvelle génération qui arrive. Massimo Osanna la représente particulièrement. Il y a d'autres chercheurs et d'ailleurs, il les a réunis pour des fouilles nouvelles dans le sanctuaire d'Apollon, à Torre Annunziata. Donc il y a encore une fois une très grande animation intellectuelle, autant que patrimoniale à Pompéi en ce moment. Nous espérons que ça continuera comme ça de nombreuses années.
Les horizons profonds de Pompéi ont été perçus, mais très peu de fait.
Alors c'est très difficile en effet, d'une part parce que il y a toute la ville romaine, il y a la ville Samnite avant, et donc les horizons les plus anciens, qui sont ceux du 6e siècle avant Jésus-Christ, ont été atteints par de petits sondages, en fait, assez limités. Mais je pense par exemple aux fouilles qui sont faites au temple d'Apollon actuellement, qui ont mis en évidence des voies, des rues antiques, archaïques, qui reprennent l'orientation, ou plus précisément qui anticipent l'orientation des rues de l'époque romaine, mais qui ont des parcours un peu différents tout de même.
Si l'on remonte dans le temps, Pompéi et ses cendres ne sont pas un cas unique. Il y a bien sûr Herculanum, mais il y a aussi un Pompéi de l'âge du bronze, bien moins connu, qui a été aussi découvert il y a quelques années.
Alors oui, la Campanie, pour ça, est un terrain archéologique extraordinaire. Donc il y a à Nola, un village de l'âge du bronze, avec tous les restes du bois, bien entendu, mais aussi, par exemple, les animaux qui sont restés piégés dans l'habitat. Et puis, plus près de Pompéi, un site qui est très important pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le site de Longola, à Poggio Marino, qui est un habitat, un village de l'âge du fer, du 8e siècle avant Jésus-Christ, et qui a été, lui, recouvert par les alluvions de la rivière qui passe à Pompéi, qui est le Sarno. Et là, on a également tous les restes, comme dans les palafites des lacs suisses, on a tous les restes de bois qui permettent aussi la dendrochronologie, le carbone 14, etc. Et c'est une manière aussi dans ce site de Longola de voir quelle était la population de la vallée du Sarno, c'est-à-dire autour de Pompéi, à partir de l'époque où il y avait des indigènes campaniens italiques dans cette région, bien avant la fondation de la ville.
Donc un site de l'âge du fer, un site de l'âge du bronze à Nola, daté environ de 1860-1880 avant notre ère. À chaque fois qu'il y a une éruption, cela masque des choses et il y a un vrai potentiel à trouver.
Ah oui, tout à fait. Cela masque des choses, mais en même temps, ça les conserve bien, bien au chaud pour les archéologues futurs. Alors, il y a aussi des moyens de plus en plus fins pour dater tout ça, pour aller plus en profondeur aussi. Il y a des restes, évidemment, de l'époque paléolithique également, qui sont insérés entre des phases d'éruption qui, maintenant, peuvent être datées assez précisément. Et donc, on peut remonter comme ça à plusieurs centaines de milliers d'années, finalement, avec toutes ces éruptions qui ont eu lieu tous les millénaires ou à quelques millénaires de distance dans la région autour du Vésuve.
Stéphane Verger, dans son édition de 1870, Ernest Breton raconte que la fondation de Pompéi, comme celle d'ailleurs d'Herculanum, est attribuée à Hercule. Comme Rome, Pompéi aurait donc une histoire mythique.
Alors, c'est la Campanie, en fait, qui a une histoire mythique, ou plutôt plusieurs histoires mythiques. La Campanie, c'est une sorte de microcosme de la Méditerranée. Toute la Méditerranée est en Campanie, au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et donc, Hercule, Héraclès, par nécessité, devait être passé en Campanie. Et par exemple, on a à Capoue, dans le nord de la Campanie, qui est la plus ancienne cité étrusque de Campanie, un vase en bronze, le Lebes Barone, qui porte une décoration avec Hercule et Cacus. Hein, c'est ce héros de Rome, voleur, hein, qui avait volé une partie du bétail ramené du lointain Occident par Héraclès, depuis les terres de Gérion. Et donc, il y a cette scène très drôle où il y a le troupeau de Gérion avec Héraclès. Et derrière Héraclès, il y a un petit personnage qui est ficelé à un arbre et qui est peut-être le Cacus de Rome, de la légende de Rome, ou bien une version locale, campanienne de ce mythe.
On peut penser que toutes les villes, toutes les régions avaient des mythes fondateurs de la sorte?
Oui, tout à fait, bien sûr. Alors certains,
c'est très important pour une société de s'inscrire dans le mythe.
Tout à fait, oui. Alors certains mythes, on les connaît bien parce qu'ils sont transmis par la littérature grecque et latine. Dans d'autres régions, étrusques d'ailleurs, hein, on ne sait pas très bien, mais on a des sources iconographiques. Hein, je pense à de grands monuments comme un trône en bois qui a été trouvé à Verrucchio, hein, dans une autre périphérie du monde étrusque, qui a des représentations peut-être du mythe de Télèphe, ou de ce qui est en Italie le mythe de Télèphe. Vous savez, ce mythe où c'est quelqu'un qui va devenir roi et qui est allaité par une biche. Et donc il y a très tôt, hein, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, cette représentation, mais qui n'est connue par aucun texte de cette époque, bien sûr. Donc il y a toute une partie des mythes de fondation qui sont inconnus parce que la littérature n'est pas là pour les illustrer et les documenter.
Revenons-en à la réalité archéologique qui n'est pas simple à démêler. Nous voici en Campanie où sont présentes bien des ethnies différentes.
Alors la Campanie, c'est peut-être une des régions de la Méditerranée les plus intéressantes de ce point de vue, parce que tous les peuples, en effet, se sont réunis là. Donc il y a bien sûr des Italiques, hein, des indigènes, comme on dit, qui étaient là depuis le deuxième, troisième millénaire, peut-être depuis l'époque de la néolithisation finalement, qui parlaient une langue indo-européenne, du groupe des langues italiques. Et puis, à partir du 9e siècle, sont arrivés des groupes étrusques qui venaient donc de l'Étrurie propre, c'est-à-dire de la zone entre le Tibre et l'Arno, de Cerveteri, de Veii, de toutes ces grandes cités qui existaient déjà à l'époque.
Bien plus au nord.
Bien plus au nord de Rome. Ils parlaient une langue qui n'était pas une langue indo-européenne, qui était tout à fait isolée dans les langues de la Méditerranée antique.
Et qui pose plein de questions.
Et qui pose beaucoup de questions. Et à Pompéi maintenant, comme on va le voir, il y a beaucoup d'inscriptions étrusques, hein, qui ont été lues, interprétées. Et puis, à partir du 8e siècle, il y a les Grecs qui arrivent, qui fondent les premières cités grecques en Occident. Donc c'est Cum, par exemple, fondée par les Eubéens. Donc ces Grecs qui viennent de l'île qui se trouvent au nord d'Athènes, au nord de l'Attique, et qui sont les premiers grands navigateurs grecs en Méditerranée.
Et alors, qui sont les Samnites, dont vous parliez tout à l'heure?
Les Samnites, donc il y a deux types de Samnites. Hein. Il y a d'une part les Italiques.
C'est les populations locales.
Donc il y a d'une part les populations locales, qui étaient là avant l'arrivée des Étrusques et des Grecs. Et puis, il y a aussi des Samnites qui viennent de l'Italie intérieure, du Samnium, c'est-à-dire des Abruzzes actuelles, et qui sont arrivés en Campanie à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui ont finalement remplacé les Étrusques et les Grecs, et qui ont pris possession des cités qui étaient, par exemple, Paestum, Poseidonia, hein, qui était une cité grecque dans le sud de la Campanie. Ils ont évidemment pris Pompéi, hein, qui est devenue une ville samnite, qui était vraisemblablement une ville étrusque auparavant. Et ils se sont installés dans l'ensemble de la Campanie. Et eux parlaient une langue qui était losque, qui était une langue italique. Et ils avaient une culture qui était à la fois une culture tribale, guerrière du centre de l'Italie, et en même temps une culture très hellénisée, parce qu'ils sont venus au contact de la culture grecque des villes de la côte, à la fois en Campanie et puis aussi dans le sud de l'Italie, dans ce que l'on appelle la Grande Grèce.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
De fait, le cœur du sujet porte sur une question controversée, complexe, celle de l'Étrurie campanienne, des Étrusques dans la région de Pompéi, et par là même des relations, voire des échanges culturels, entre les Étrusques, les Grecs et les peuples indigènes campaniens.
Alors, en effet, les Étrusques donc sont connus en Campanie à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque villanovienne, c'est-à-dire la première phase de l'histoire étrusque. Et finalement, on peut dire à Capoue, par exemple, la grande première ville étrusque de Campanie, on peut dire que la culture villanovienne apparaît au même moment que dans les grands centres de l'Étrurie. Il y a aussi le centre de Ponte Cagnano, dans le sud de la Campanie, qui apparaît au même moment. Donc là, il y a un dynamisme de cette culture étrusque qui se mêle à la culture locale indigène, italique. Et évidemment, il y a aussi des centres qui sont mixtes, bien entendu, hein, des centres qui sont à l'intérieur, tout autour du Vésuve. Finalement, il y a une sorte de croissant étrusque, hein, ou étrusquisé autour du Vésuve, vers l'est, entre Capoue d'un côté, et puis la plaine du Sarno, où se trouve Pompéi.
Cette région du sud de l'Italie serait donc multiethnique et le resterait longtemps ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une des particularités et c'est ce qui en fait un véritable laboratoire sur les transferts culturels. Donc, il y a de nombreux archéologues qui se sont intéressés à cette région de ce point de vue. Donc, évidemment, il y a des Grecs hein, qui se sont installés à partir du 8e siècle. Ensuite, on a vraisemblablement de nouveaux Étrusques qui arrivent ou qui s'installent à partir de Capoue. Et puis, il y a tous ces Italiques qui se mêlent à ces populations. Mais il ne faut pas oublier que la Campanie, c'était un carrefour des grandes navigations, des commerces méditerranéens, du commerce du vin en particulier. Et on sait par exemple que sur l'île d'Ischia, dans le comptoir de Pithecus, qui était un comptoir grec, il y avait à la fois des Grecs, bien sûr, de différentes zones de la Grèce, puisque la Grèce à cette époque, c'était une myriade de cités, hein, jusqu'à la Turquie. Mais il y avait aussi des Phéniciens, puisque les Phéniciens étaient installés également en Sardaigne, en Sicile, et avait des villes là, et commerçait bien entendu avec les Étrusques, avec les Campaniens aussi sans doute, et avec toutes les populations qui se trouvaient en Campanie. Il y avait des Sardes aussi, hein, des indigènes Sardes, et on a retrouvé sur toute la côte tyrrhénienne des restes à Cume par exemple, des productions de bronze qui viennent de Sardaigne.
J'imagine que les niveaux anciens, archaïques ou classiques de Pompéi sont profondément enfouis sous la ville samnite puis romaine. Pompéi aurait-elle pour autant pu être créée par les Étrusques ?
Alors donc c'est un grand débat. Pendant longtemps, on a pensé plutôt à une ville indigène, bien entendu, mais les nouvelles découvertes qui ont été faites et qui s'accumulent année après année montrent que la situation est peut-être plus compliquée. Alors maintenant, donc les fouilles récentes dans le sanctuaire de Fondoyozzino ont donné de très nombreuses inscriptions étrusques. Ce sont des dédicaces avec des noms étrusques dans des caractères alphabétiques étrusques, avec des noms que l'on retrouve dans les grandes villes de l'Étrurie. Hein, ce sont peut-être des personnes ou des groupes qui venaient des grandes cités de l'Étrurie, juste au nord de Rome, et qui se sont installés à Pompéi à partir de 600 avant Jésus-Christ à peu près. Donc ils se sont sans doute mêlés là, comme dans toute la Campanie, avec les groupes indigènes qui occupaient la vallée du Sarno, avec des Grecs aussi. Ils faisaient appel à des artisans grecs, par exemple pour construire les temples, pour décorer les toits en terre cuite de leurs temples. Mais il y a une très forte empreinte étrusque à Pompéi.
Est-ce que l'on peut penser que les Étrusques auraient politiquement créé donc Pompéi ?
Alors vraisemblablement, donc c'est une des hypothèses que nous présentons dans l'exposition. On s'est toujours demandé quelle était la logique urbanistique de Pompéi, parce que c'est une ville qui est à la fois une ville très rigoureuse avec des quartiers orthogonaux, et puis une ville où ces quartiers sont assez nombreux finalement et ne suivent pas forcément les mêmes orientations. C'est une organisation qui est à la fois régulière à l'intérieur des quartiers et irrégulière pour l'ensemble de la ville. Donc on a pensé que c'était plusieurs phases de l'urbanisme, et maintenant on peut se dire que c'est plutôt un état de l'urbanisme antique, qui était à la fois grec et étrusque, qui date justement de cette époque, des environs de 600 avant Jésus-Christ. On a aussi des restes maintenant, des rites de fondation de la cité. Notamment, on peut penser que Via Stabiana, qui partage la ville en deux, pouvait être reprendre l'orientation de la spectio, c'est-à-dire de la visée qui a été prise par les aruspices, donc par ces prêtres étrusques, au moment de la fondation de la ville, au début du VIe siècle avant Jésus-Christ.
Et s'agit-il d'un véritable projet à l'image des villes neuves qui émergeront, par exemple, en Mésopotamie antique autour du IIIe millénaire, ou par exemple au Moyen-Âge en Europe ?
Oui, alors
une vraie stratégie, un vrai projet, ville neuve.
Oui, une ville neuve. Et les Étrusques connaissaient les villes neuves, puisqu'on en connaît d'autres, et là on est sûr qu'elles sont étrusques, comme Marzabotto, près de Bologne, qui est une cité tout à fait régulière. Alors là, c'est un plan orthogonal parfaitement régulier. On a retrouvé les bornes qui ont servi à la mise en place de la voirie orthogonale. On a même la borne centrale. On sait qu'il y avait ce que l'on appelle l'auguraculum en latin, mais qui était étrusque, donc à partir duquel le prêtre faisait ses visées, justement, qui organisait l'espace comme un élément du cosmos. La ville était une sorte de représentation, de projection du cosmos dans l'espace en deux dimensions qui était l'espace terrestre.
Comment doit-on s'imaginer cette ville de Pompéi au VIe siècle avant notre ère ? C'est quand même assez difficile puisque c'est pratiquement pas fouillé.
Alors c'est difficile, c'est très fragmentaire, donc on doit recourir à la fois à ce que l'on connaît d'autres villes contemporaines, et je rappelle que 600 avant Jésus-Christ, c'est une période de très grand dynamisme dans la fondation des villes. Rappelons par exemple que Massalia, Marseille, a été fondée en 600 avant Jésus-Christ. C'est le cas de nombreuses autres villes grecques, comme Célinonde, par exemple, en Sicile, et bien d'autres. Et donc, il faut sans doute avoir une idée de ces villes de Méditerranée occidentale, qui devaient se ressembler tout de même, qu'elles soient grecques ou étrusques. Et par ailleurs, il faut recourir aux très petits fragments que l'on a conservés à Pompéi, et qui sont des fragments, par exemple, de décorations de temples qui sont très petits, tout à fait fragmentaires, mais dans lesquels on reconnaît des restes qui sont présents à Capoue, par exemple, ou à Cum. Et donc, on peut reconstituer les grands temples de Pompéi du VIe siècle avec cette comparaison avec les grands temples mieux connus des cités plus septentrionales.
La création de Pompéi serait toutefois plus récente que la ville grecque de Cum, à peu près contemporaine avec celle de Pestum ?
Voilà, c'est une deuxième phase. La première phase de création des villes, c'est la deuxième moitié du 8e siècle. Alors, il y a eu bien sûr la fondation de Capoue auparavant, vers 900 avant Jésus-Christ, puis vers 730 avant Jésus-Christ, la fondation de Cum, grec. Et ensuite, il y a toute cette série de fondations des environs de 600 avant Jésus-Christ. Mais il faut rappeler aussi que c'était un moment de transformation de l'urbanisme occidental. Par exemple, la ville de Rome a subi de nombreuses transformations urbaines à cette époque, justement. Et Poséidonia, donc, était une cité aussi très régulière, qui a été fondée à cette époque et qui ensuite s'est développée pendant tout le VIe siècle avant Jésus-Christ.
La Pompéi étrusque, nous l'apercevons surtout au travers de fouilles récentes, celle d'un sanctuaire extra-urbain, le sanctuaire de Fondo Iosino, c'est ça ?
Fondo Iosino, oui, c'est ça.
C'est donc bien
c'est,
dit.
C'est un sanctuaire qui est connu depuis longtemps, mais dont seules les strates les plus récentes avaient été fouillées. Et donc, Massimo Zan a fait cette fouille extraordinaire des niveaux anciens, et il a retrouvé des quantités extraordinaires d'offrandes qui datent du VIe siècle avant Jésus-Christ, et notamment donc toute une série de vases en bucchero nero, cette céramique typiquement étrusque, avec des inscriptions en étrusque, qui étaient des dédicaces donc de personnages à la divinité, qui était une divinité sans doute masculine, au moins au début, en étrusque Appa, le nom du père, qui était peut-être l'équivalent d'une sorte de Zeus infernal pour pour les Grecs, le Zeus Meilikios, qui est connu par ailleurs par la littérature. Il y a des armes, par exemple, qui ont été trouvées, et puis il y a des bijoux, hein, comme ce scarabée en cornaline qui porte une représentation du suicide d'Ajax. Donc on est toujours dans la mythologie cette fois-ci homérique, et donc c'est ce qui fait l'affiche et le catalogue de l'exposition de Pompéi.
Les inscriptions en langue étrusque ont été traduites ?
Oui, alors, parce que les inscriptions que l'on trouve dans les sanctuaires, généralement, sont des inscriptions sur vases en céramique et sont des formulaires à la fois assez simples et aussi très standardisés. Et donc, on connaît à peu près les noms, les mots qui servent pour dire « un tel a offert à telle divinité telle chose ».
On est sur des sépultures, on est sur une nécropole aristocratique.
Alors ici, c'est un sanctuaire. Malheureusement, on ne connaît pas la nécropole archaïque de Pompéi, mais on a trouvé à proximité, à Stabi, des tombes, en effet, qui remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui sont ces tombes, justement, qui montrent que dans la vallée du Sarno, c'est-à-dire dans la région tout autour de Pompéi, on avait des productions qui étaient des productions indigènes qui ont été étrusquisées, finalement, et donc on voit apparaître cette céramique étrusque, le Bouquero Nero, et puis on voit apparaître aussi des importations grecques, parce que Pompéi, finalement, à l'embouchure du fleuve Sarno, c'était un port dès l'origine, et il a vraisemblablement remplacé d'autres ports, peut-être il a concurrencé Cum, par exemple, donc c'était aussi une manière de prendre le contrôle de ces voies commerciales, de ces carrefours commerciaux qui étaient ceux de la Campanie.
D'autres villes étrusques, comme Capoue, possède de tels sanctuaires ?
Alors oui, tout à fait, et surtout Ponte Cagnano, qui est moins connu que Capoue, mais qui est au sud de la Campanie, où l'on a retrouvé plusieurs sanctuaires, dont il y a des restes présentés dans l'exposition, et qui sont tout à fait semblables à ceux de Pompéi, finalement. Hein. Donc il y a une communauté, sans doute, de cette ritualité étrusque de la Campanie, qui est très intéressante. Alors tout cela, c'est aussi une histoire éphémère, hein, puisque c'est le VIe siècle avant Jésus-Christ, et puis au début du Ve siècle, il y a des événements historiques, hein, qui changent la donne, et notamment ce que l'on appelle la bataille de Cum, qui a opposé les Grecs et les Étrusques, et ça a été une grande défaite étrusque. Et donc, par la suite, dès la première moitié du Ve siècle, Pompéi a été finalement remplacée par une autre ville que l'on connaît bien, qui est Naples, Néapolis, hein, qui a été fondée à cette époque, qui est une sous-colonie de Cum, qui a été fondée vraisemblablement pour les Grecs, pour reprendre le contrôle des commerces dans cet espace très important qui était la Campanie antique.
Justement, Stéphane Verger, comment s'organisaient un peu les relations entre toutes ces villes, Cum, Capoue, Pompéi, qui de toute manière n'appartenaient pas aux mêmes cultures ? C'est compliqué.
Alors, à la fois, c'est très compliqué, mais à la fois c'est ça qui est passionnant, bien sûr. Donc on a des certes les ethnies étaient importantes, mais ce sont surtout les éléments culturels et les relations entre de grands personnages, de grandes familles aristocratiques en particulier. Donc on peut parler par exemple pour les années 700 avant Jésus-Christ de cette grande tombe de Cum, qui est la tombe que l'on appelle la tombe 104 du cimetière Artiaco, qui est une tombe très importante parce que c'est à la fois une incinération dans des chaudrons en argent de type grec. Donc le défunt était incinéré, comme dans les funérailles de Patrocle, par exemple, à la fin de l'Iliade. Mais en même temps, ce défunt avait un vêtement qui était un vêtement étrusque, avec des fibules en or, identiques à celles que l'on trouve dans les grandes tombes princières du Latium, de l'Étrurie méridionale. Il y avait une sorte d'identité, hein, du costume, des manières de table aussi, qui était non pas étrusque, mais tyrrhénienne finalement. Et puis, ce personnage, il avait aussi un service de banquet en argent qui était phénicien. Et donc, voilà, c'était l'Orient, l'Occident et la Grèce qui se retrouvaient dans une même tombe de Cum et qui ouvrait finalement une histoire très longue qui est celle de la Campanie étrusque, grecque et italique.
Stéphane Lerger, merci beaucoup. Je rappelle le titre de l'exposition qui se tient actuellement à Pompéi, Pompéi et les Étrusques. Stéphane Verger, merci beaucoup d'être venu dans un moment si difficile, puisque vous avez perdu votre père, Gabriel Verger, et recevez bien sûr toute ma sympathie dans cette épreuve. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Alain Joubert, et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera consacré à l'archéologie des faux et des faussaires.